Nous accueillons aujourd'hui Fatiha Temzi. Fatiha Temzi est l'auteur d'un roman jeunesse, Échec et maths, publié récemment chez Bookenbeck, ici au Canada. Bienvenue Fatiha Temzi à Radio-Canada International.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Merci. Alors Fatiha Temzi, vous êtes enseignante de mathématiques au secondaire. Comment en êtes-vous venue au monde de la fiction et de l'écriture de romans?
Donc en fait, moi j'ai toujours aimé écrire depuis toute petite. Bon, aimé écrire et lire, évidemment, depuis toute petite. Donc j'ai déjà écrit pas romans, mais plusieurs textes et tout, mais que j'ai jamais publié. Okay? Mais là, je ressentais le besoin d'écrire quelque chose, de partager surtout quelque chose. Donc, l'idée d'écrire m'est venue à partir de deux raisons principales. Là, c'est les deux raisons. La première, c'est j'avais une volonté de partager. Les récentes études en éducation, notamment en neurosciences cognitives. Donc ça, c'était ma première raison principale. Je voulais partager surtout avec des jeunes. Puis, je voulais rendre ça accessible. Tout ce qui est fait en neurosciences cognitive, tout ce qui concerne le cerveau, je voulais le rendre accessible aux jeunes à travers un récit. Je voulais pas d'un manuel.
Okay. Ben, là, vous précédez ma question. Votre roman raconte l'histoire de Sofia, une adolescente de 15 ans qui est en échec scolaire, mais qui ne manque pas de répartie en le lisant. Alors, à la fin de votre roman, moi, je l'ai lu, on sort avec beaucoup d'enseignements sur la gestion du temps, l'engagement, la mémoire, la répétition, tout ça. On a l'impression d'être en face d'un manuel de réussite personnelle, mais vous avez choisi la voie du roman. Pourquoi?
Oui, j'ai utilisé un récit parce que pour moi, l'apprentissage va mieux se faire à travers un récit, une histoire, à travers le jeu, à travers des enseignements et des expériences surtout, parce que la jeune Sophia, le personnage principal, vit des expériences. Donc, moi, je me voyais mal en tant qu'enseignante. Montrer un manuel, un guide. Un guide, c'est, comme disent les jeunes, c'est plate. Okay? Donc là, je voulais quelque chose de très pratico-pratique. Donc j'ai opté pour le récit. Puis moi, j'adore les histoires, donc tout ce qui est conte et tout. Et puis voilà, j'ai jumelé les deux, l'utile à l'agréable.
Alors, votre personnage ou bien l'héroïne de l'histoire, Sofia, va rencontrer Tante Mage. Alors, elle va la rencontrer, elles vont vivre ensemble pendant quelques jours. Je vais pas dévoiler l'histoire. Est-ce que le rôle de Tante Mage peut être joué par le professeur dans la vie quotidienne? Parce qu'on peut imaginer que ce n'est pas tous les enfants qui vont avoir la chance de rencontrer une personne qui va les guider pendant comme un stage personnalisé. Est-ce que les
Oui.
professeurs peuvent jouer le rôle de Tante Mage quelque part?
J'aime beaucoup votre question parce que, en fait, un enseignant, on n'a pas la chance de faire ces enseignements-là en classe, surtout si on a un programme à respecter. Moi, j'enseigne les maths, je me vois mal sortir du cadre et puis aller faire des expériences de ce genre-là, aller en pleine nature. J'aimerais tellement faire ça, mais malheureusement, je peux pas faire. J'ai un programme à respecter, donc je voulais sortir un peu de ce cadre-là, puis aller dans tout ce qui est, voilà, dans un roman, puis une histoire, puis faire vivre des expériences par procuration à des jeunes.
Votre roman, il est raconté à la première personne. C'est comme un journal quelque part.
Oui.
Et ça, on voit un peu le côté fille de l'histoire. Est-ce que c'est une histoire qui peut intéresser les garçons et les filles, ou bien c'est une histoire exclusivement pour filles?
Moi, honnêtement, j'aurais aimé avoir un plus large public là pour le roman, mais en même temps, j'ai été aussi dans ma zone de confort. Je voulais pas sortir de cette zone-là pour un premier roman comme ça, tout à partager. Donc, je voulais faire quelque chose selon ma zone de confort à moi.
Selon votre expérience, est-ce que les filles et les garçons ont les mêmes défis? Habituellement, on entend plus des histoires de garçons qui décrochent, mais là, on est en face d'une fille qui veut décrocher, qui veut aller travailler parce qu'elle est en échec en maths et elle veut plus parler d'école, même si elle a 15 ans.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que les garçons décrochent, selon les statistiques évidemment, décrochent plus que les filles. Mais en même temps, c'est une histoire. Donc, je voulais aller explorer ce côté-là où je voulais. Ça existe. Je peux pas dire que ça n'existe pas. Il y a des filles qui veulent décrocher. Il y a des. En fait, moi, c'était pas juste le décrochage. Moi, je voulais plus mettre, exagérer le personnage, dire que vraiment, parce qu'elle veut pas vraiment décrocher. On va dire que.
Elle était dans des sentiments contradictoires, oui.
C'est ça, vrai. Voilà. Donc,
elle cherchait que quelqu'un qui puisse l'aider pour sortir de ça. C'est tout à fait. Et elle le dit à un moment. Oui,
c'est ça. C'est comme elle sait pas. Vous savez, l'adolescence, c'est complexe. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses que le jeune peut vivre, de contradictions et tout. Donc, j'ai choisi ce personnage-là. Bon, fille, gars, est-ce que c'est nécessaire. À un moment donné, moi, je me dis qu'il faut dépasser cet aspect-là.
Et d'ailleurs, par rapport à l'adolescence, à un moment, la fille ou la maman de la fille lui a dit que l'adolescence, ça s'attrape. Comme,
oui.
C'est comme une maladie.
C'est ça, oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par ça?
C'est le langage très adolescent. Les ados utilisent beaucoup ce langage-là. Et puis, si vous avez remarqué, c'est un langage que j'ai utilisé, il est très accessible aux jeunes. Et puis, oui. C'est leurs mots à eux que j'ai mis sur papier. C'est des mots que les jeunes utilisent. Donc, ils le voient de cette façon. Leur perception aussi de ce qui est l'adolescence ou les partages, ce qu'ils reçoivent comme parole aussi. Des fois, nous, les adultes, on parle, on dit des choses, mais eux, ils retiennent certains mots, certaines phrases, c'est ça qui retient, c'est tout. Donc là, des fois, ils réutilisent ces mots-là.
Exactement. Les enfants actuellement vivent dans un monde où plein de notifications qui les entourent. Mmh. Comment est-ce qu'on peut les amener à se concentrer? À un moment, vous dites que les enfants, on leur apprend, enfin, vous dites, puisque vous êtes l'auteur, vous dites que les enfants, on leur apprend tout à l'école, sauf l'écoute. Là, oui. Comment on peut les ramener à se concentrer dans un monde qui est complètement géré par les notifications? Même nous, comme adultes, on souffre de ça.
Ça s'apprend déjà dès le jeune âge. Moi, pour les écrans, je trouve que c'est un fléau quand même qui fait mal à la société, surtout aux jeunes. Puis on leur met entre les mains quelque chose de gros quand même, un écran ou un cellulaire ou peu importe. Puis c'est très difficile, en tant qu'adulte, c'est difficile à gérer ça. Imaginez un jeune. Moi, je me dis qu'il y a toujours, toujours des stratégies dans la vie. Okay? Donc, c'est sûr que si on conscientise le jeune, si on lui parle, il va à un moment donné trouver son équilibre. C'est vraiment chercher l'équilibre dans tout ça. Notification, écoute, tout ce monde-là qu'on vit actuellement, que les jeunes aussi vivent, subissent ou peu importe, mais il faut trouver l'équilibre là et ça s'apprend. Moi, je suis très convaincue que tout s'apprend.
Et d'ailleurs, vous dites, vous utilisez dans le roman l'expression de Socrate, je pense, qui dit que tout être humain est perfectible et vous semblez y croire. Donc, oui. Pour vous, il n'y a aucun enfant duquel on peut désespérer, dire là, lui, il est irrécupérable. Non, ça n'existe pas, ça.
Oui, moi, j'ai vraiment une croyance qu'on peut se développer, on peut. Et en plus de ça, c'est pas juste ma croyance à moi, c'est aussi les neurosciences cognitives, encore une fois, qui démontrent que le cerveau, il a une plasticité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut tout le temps apprendre, se développer. Ça, c'est les sciences qui le disent. Et puis, c'est récent comme étude. Donc, moi, c'est ça que je voulais. Le jeune à l'école, par exemple, il utilise son cerveau. Okay? Donc là, il utilise quelque chose, il doit savoir comment l'utiliser. Donc, je voulais partager ce côté-là que on peut utiliser son cerveau, puis on est tout le temps en apprentissage, et puis il faut être ouvert, et puis il faut être à l'écoute. Il faut être ouvert et à l'écoute. Ça, ce sont deux bases nécessaires.
Parfait.
Parce que le cerveau est... C'est plastique, il est malléable.
C'est plastique et ça est toujours, il est perfectible. Mais écoutez, merci beaucoup Fatiha Temzi. Oui. Vous êtes l'auteur d'un roman jeunesse, Échec et Math, publié récemment chez Bouquin Bec ici au Canada. Merci beaucoup.
Merci à vous.